sur le PMA. Mais sinon, hein, ceux qui suivent des cours d'histoire ici depuis un certain temps savent que le dernier cours est l'occasion pour moi de rappeler que le beau service que rend l'IET n'a aucun subside d'État. Nous vivons de dons. Hein. Bien sûr, nous avons des étudiants qui payent un Minerval, mais pour que le Minerval soit accessible à tous ces diocèses qui ont beaucoup de charges et qui ont encore des séminaristes, le Minerval ne couvre que 40% des frais de fonctionnement de l'IET. Donc, alors, je vous rappelle que la Meuse est faite de beaucoup, beaucoup de petits ruisseaux qui se jettent dedans. Et bien sûr, à un moment, il y a la Sambre qui se jette dedans. S'il y en a d'entre vous qui veulent être la Sambre, faites un beau gros don à l'IET. Mais sinon, il y en a parmi vous qui ne veulent pas faire un gros don. Faites un don moyen à l'IET. Mieux encore, si vous ne pouvez pas faire de don moyen, faites un petit don, mais régulièrement. Je préfère que vous me fassiez un ordre permanent de 5 ou de 10 euros par mois, mais qui dure dans les 4 ans à venir, que d'avoir tout à coup 5000 euros qui ne donnent pas de perspective de durabilité. Tandis que quand on a des ordres permanents, on peut mieux prévoir le budget. Donc voilà, pour ceux qui voudraient faire un don, je mettrai la feuille avec un autre numéro de compte que celui-là sur les tables à l'extérieur. Vous en prenez si vous en voulez. Mais je vous signale que ce numéro-là ne donne pas droit à la déduction fiscale, parce que nous n'avons le droit à la déduction fiscale que pour les dons qui passent par Caritas et qui sont uniquement pour les étudiants du tiers-monde qui sont à l'IET. Or, nous n'en avons pas beaucoup. Moi, je ne peux pas justifier tous vos dons en disant que c'est pour les étudiants du tiers-monde, quoi. Ou alors il faut que j'en fasse venir beaucoup plus, mais c'est assez difficile. Donc, si vous voulez bien, vous faites un ordre permanent sur le numéro de compte qui est là. Si vous avez besoin de la déduction, quelle qu'en soit la raison, alors vous allez sur le site de l'IET et vous trouverez les modalités avec un autre numéro de compte qui passe par Caritas. Voilà, je remercie toutes les petites rivières qui vont faire le grand fleuve. Merci Jean-Luc.
Bien, bonsoir, nous voici donc réunis pour la dernière étape de ce parcours que nous avons fait ensemble. Et cette dernière étape, je la voudrais, en guise de conclusion, essayer de rassembler ce qui, personnellement, me paraît le plus important sur le plan pastoral comme chrétien et, d'autre part, comme enjeu de société, comme citoyen. Et je regroupe les réflexions de ce soir autour de deux thèmes, celui de la fraternité d'une part au niveau chrétien, pastoral, et celui de l'histoire au niveau plus citoyen. Nous avons débuté ce cours lorsque nous étions encore tout à fait plongés dans la suite des attentats de Paris, des arrestations de Verviers. C'est la première fois que j'aborde ce cours en me demandant s'il aura lieu et s'il ira jusqu'au bout. Mais voilà, nous y sommes. Nous sommes évidemment confrontés beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans, ça fait un peu plus de 20 ans que je donne ce cours d'introduction, à des questions essentielles pour la vie de la société. Nous sommes habités par des craintes, des peurs, des questions, de la haine peut-être, beaucoup de sentiments qui sont légitimes face aux grandes difficultés que connaît notre monde dans les relations islamo-chrétiennes d'une part, mais dans la place du monde musulman dans le monde contemporain également. Si je regarde les années au cours desquelles j'ai donné ce cours, j'ai connu au départ plutôt une période de curiosité irénique, hein, où il y avait des auditoires bien garnis comme le vôtre également. Puis j'ai connu de façon étonnante, il y a 7-8 ans, une période de rejet. Hein, donc, il y avait beaucoup moins de monde. Et parmi ceux qui étaient obligés d'être là, certains se bouchaient les oreilles pour être sûrs de ne pas entendre. Donc, et puis maintenant, on est dans une nouvelle période où le sujet a de nouveau de l'intérêt et une actualité, mais qui est peut-être un peu moins irénique qu'il y a une vingtaine d'années, habité par beaucoup plus de questions, car je suis sûr que vous avez votre présence nombreuse et assidue témoigne certainement d'un grand intérêt scientifique et académique, mais sans doute aussi d'un questionnement plus existentiel qui touche tant à notre vie de citoyen que de chrétien. Alors c'est vrai que face à toutes les questions qui se posent aujourd'hui et qui se posent avec violence aussi, le parcours que nous avons fait n'apporte certainement pas de réponse, ni même de solution. D'une part, c'était un parcours bref. D'autre part, les questions qui se posent aujourd'hui, je crois que personne n'a les réponses et ne sait quelles sont les pistes de solution que l'on pourra trouver pour un vivre ensemble pacifique au niveau européen, mais au niveau mondial également. Et enfin, mes compétences sont également limitées, donc je n'ai pas les avis les plus pointus sur toutes les questions que nous avons été amenés à parcourir ensemble. Mais j'espère néanmoins que ce bref parcours aura permis de donner quelques points de repère, de mieux cerner les difficultés réelles qui se posent dans la rencontre. Je ne pense pas qu'il faille faire comme s'il n'y en avait pas, mais en les mettant aussi un peu à distance pour ne pas réagir simplement de façon émotionnelle et instinctive, pour voir les enjeux qui sont sous-jacents et ainsi pouvoir petit à petit peut-être trouver des pistes pour contribuer au nom de notre foi et de notre engagement citoyen à un vivre ensemble meilleur pour tous. Car la position du repli sur soi ou d'un simple rejet est une position qui n'est simplement pas tenable, puisque nous vivons dans une période de l'histoire de l'humanité où la question du vivre ensemble est plus déterminante que jamais. La mobilité des populations est un fait irréversible et que la globalisation des échanges sur le plan économique continuera à renforcer dans les décennies et probablement le siècle ou les deux siècles qui viendront. Donc nous sommes sommés d'une certaine façon de trouver des pistes qui soient à la fois pas marquées de naïveté mais qui ouvrent en même temps des chemins d'espérance et un avenir pour tous. Alors, je voudrais donc, dans un premier temps, comme je vous l'annonçais, aborder la question comme chrétien. Comme chrétien, quels sont, au terme de ce parcours, ou quel est finalement l'enjeu essentiel que nous pouvons retirer ? Dans la petite interview que Zénith avait faite à propos de ce cours avant qu'il ne débute, j'avais répondu à une question en disant que pour le chrétien, rien de ce qui est humain ne peut être étranger et que la rencontre vise à contribuer au développement d'une fraternité de plus en plus universelle au cœur de l'humanité, que notre foi au ressuscité nous y engage et nous empêche de nous résigner à l'incompréhension ou au repli sur soi. Je pense vraiment que c'est notre foi qui est en jeu dans la rencontre et qui nous empêche de nous résigner à l'incompréhension ou au repli sur soi. Je pars donc personnellement du point de départ qui peut bien sûr être discuté, mais que la fidélité au ressuscité nous engage nécessairement et obligatoirement sur un chemin de rencontre et non un chemin de rejet. Alors, le parcours que nous avons fait ensemble tout au long de ces semaines a mis en évidence que l'islam comme système, pour reprendre une distinction de Mgr Henri Coudray dans un texte fort intéressant que m'a transmis le père Livens, je crois que le parcours a mis en évidence que l'islam comme système présente indiscutablement des arêtes théologiques et spirituelles à la fois différentes, mais souvent aussi tout à fait opposées à celles du christianisme. C'est vrai en matière de révélation, ce schéma de descente d'une parole éternelle de Dieu ou une révélation à travers l'histoire, le schéma de la création est différent aussi. Nous avons pu voir que la référence abrahamique n'est pas la même. Abraham engageant dans une histoire dans la perspective judéo-chrétienne et restaurant dans la perspective musulmane l'ordre adamique voulu par Dieu dès la création. Les figures de Jésus et de Marie que nous avons eu l'occasion de voir et également l'eschatologie et le jugement dont nous avons parlé plus brièvement sans doute, hein, ou dans la perspective musulmane, le jugement a comme finalement meilleure image hein, celle de la balance, où un atome de bien ou un atome de mal fera la différence pour déterminer le salut éternel d'une personne, tandis que d'un point de vue chrétien, le salut sera toujours de l'ordre de la grâce, sera toujours donné. Le plus grand saint, j'avais dit, ne mérite pas le salut, il le reçoit. Donc nous voyons bien que les principales arêtes théologiques et spirituelles ne sont pas simplement différentes, mais sur bien des points s'opposent. Si nous prenons donc l'islam comme système, c'est bien ce que nous devons percevoir et souligner. Nous avons pu, j'espère, à travers notre parcours, mesurer les cohérences respectives des deux systèmes religieux. Il n'y en a pas un qui est plus logique que l'autre, ou l'un qui serait aberrant et l'autre qui ne le serait pas. L'un et l'autre présentent des cohérences religieuses fortes. Alors, cette première étape d'une prise en compte des différences de système est une étape importante. Elle est une étape importante tout d'abord parce qu'elle écarte le danger du syncrétisme, de l'annexion de l'autre. Et je pense que c'est dans la relation avec l'islam un peu à sens unique. C'est le chrétien qui risque de se faire annexer par le musulman. Sinon, on ne prend pas bien la mesure des arêtes spirituelles et théologiques de la foi chrétienne, on dira vite, on a le même Dieu. On fait tous référence à Abraham, on est des croyants en Dieu unique. Quelle différence y a-t-il finalement hein? Donc, l'importance de prendre la mesure des arêtes théologiques est sans doute plus déterminante pour le chrétien que pour le musulman. Premier enjeu. Un deuxième point qui me paraît acquis lorsqu'on prend bien la mesure des différences des systèmes religieux, c'est de mettre en évidence les enjeux de ce qui nous différencie vraiment. Je pense en particulier au rapport à l'histoire, à la question de la liberté, qui est une question anthropologique importante qui est perçue de façon différente, et à la question de l'autonomie ou non de la création. La perception des systèmes différents aide aussi à comprendre comment fonctionne l'autre, à identifier et à respecter sa différence. Et cela, c'est un point important aussi, parce que si on ne fait pas cet exercice-là, on pourrait avoir simplement l'impression que la position de l'autre est inintéressante, inintelligente ou bête, qu'elle ne tient pas. Si on prend la peine de prendre la mesure des cohérences respectives des systèmes religieux, on est au contraire interpellé par les enjeux des différences et la compréhension du fonctionnement, des réactions, de la façon de penser de l'autre. Mais Mgr Coudray, dans le texte que le père Livens m'a transmis, distingue, après avoir parlé de l'islam comme système, le distingue de l'islam comme source. Et à ce niveau, il distingue trois points, je le cite ici, j'en ajouterai un quatrième, où il nous dit que l'islam comme source nous donne des frères en Dieu en qui nous pouvons nous reconnaître et confesser l'action de l'Esprit qui, dans le face-à-face inviolable de l'homme en présence de son Dieu et à égalité de destin, œuvre bien au-delà des frontières visibles de l'Église. Cela nous préserve de l'orgueil de prétendre, par la simple identification de différences théologiques, hiérarchiser les religions et considérer le christianisme comme supérieur à l'islam. Souvent, c'est moi qui ajoute, hein, en risquant d'opposer le meilleur du christianisme au pire de l'islam. L'islam comme source, nous dit Mgr Coudray, nous incite aussi à réanimer des champs spirituels négligés de notre propre tradition religieuse, mais particulièrement vigoureux dans la tradition de l'autre. Dans la rencontre des musulmans, c'est par exemple le sens de l'unicité de la transcendance de Dieu, ou de la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. J'avais été frappé il y a quelques semaines, un matin, je partais à l'église pour célébrer la messe, et je suis une maman qui croise une autre maman marocaine, enfin qui conduisait leurs enfants respectifs à l'école, et la première interroge l'abbesse. L'abbesse, alhamdoulillah. C'est bien sûr qu'une formule, ce n'est qu'une salutation. Mais une salutation qui veut dire « pas de mal ». Quand je rencontre quelqu'un, je l'interroge, « pas de mal ». « Pas de mal », me répond-il, « louange à Dieu hein ». Pouvoir reconnaître que s'être levé le matin, pouvoir conduire ses enfants à l'école, peut-être elles n'ont pas pensé à tout ça, mais moi j'y ai pensé en les suivant, mais c'est « pas de mal » et « louange à Dieu ». Mais c'est un sens de la présence de Dieu dans le quotidien qui s'exprime dans des formules de salutation toutes simples et qui peut nous interpeller lorsqu'on se laisse toucher par l'islam comme source. Mgr Coudray souligne alors que l'islam comme source nous mobilise pour l'action commune au service de l'homme. Je pense qu'effectivement dans le monde contemporain, il y a des enjeux fondamentaux pour l'humanité où les croyants dans leur ensemble ont une parole propre à faire entendre, un engagement pour la justice, un engagement pour le respect de la création. Et personnellement, j'ajoute aussi que rejoindre l'islam comme source renouvelle notre regard de chrétien sur notre rapport au judaïsme. Mieux percevoir notre foi de chrétien comme une relecture de la tradition juive à partir de la figure de Jésus, et mieux percevoir aussi toute la dette que nous avons à l'égard du peuple juif. Penser et vivre la relation avec l'islam se fait nécessairement, à mon avis, par une relation à trois, en trialogue. Ce n'est pas un dialogue, mais un trialogue. Alors, dans cette distinction que Mgr Coudray fait entre l'islam comme système ou l'islam comme source, il ne s'agit pas d'opposer deux niveaux, ni de choisir l'un ou l'autre, mais bien de les articuler. Le premier niveau, celui de prendre la mesure de la structure d'un système, est essentiel et fondamental, une étape indispensable. Mais une rencontre authentique qui fasse droit à la différence de l'autre ne suppose pas uniquement de prendre en compte le fonctionnement d'un système. Dans le même temps, il faut reconnaître que la rencontre de l'autre, dans son expérience spirituelle, ne permet pas de le réduire à un système. Et c'est vrai pour tout chrétien, comme c'est vrai pour tout musulman qui a une expérience spirituelle authentique. L'expérience spirituelle, par sa nature même, trace un chemin qui échappe à tout système. Donc, ces deux niveaux dans la rencontre, de l'islam comme système et de l'islam comme source, ont à s'articuler de manière fondamentale. Et pour essayer de le faire ce soir avec vous, je voudrais reprendre un schéma qui a été défini par un réformiste musulman, Mohamed Abdou, qui a vécu de 1849 à 1905 et qui est un penseur important pour l'islam contemporain, qui a nourri la pensée de beaucoup d'auteurs après lui, qui ont nourri les théories de l'islam d'aujourd'hui. Et cet auteur, Mohamed Abdou, écrivait dans un ouvrage qui est paru en 1890 pour essayer de rendre compte de la place du Coran dans l'ensemble des révélations du monde. Mohamed Abdou, comme réformiste, est habité par cette question qui est d'essayer de comprendre la situation du monde musulman, 19e siècle, qui vit dans une situation de domination forte par l'Occident, alors qu'ils ont conscience de tout leur passé glorieux. Alors, dans son interprétation du Coran et de sa place dans l'histoire de la révélation, Mohamed Abdou dit que la révélation s'adapte aux âges de l'humanité. À l'enfance de l'humanité, l'humanité avait besoin de lois et Dieu a révélé la Torah. À son adolescence, elle a besoin de sentiments, de grands idéaux et Dieu envoie Jésus qui parle au cœur. Et enfin, parvenu à l'âge adulte, à l'âge de raison, l'âge que nous savons tous bien comme l'âge de l'équilibre parfait, Dieu lui révèle le Coran, message rationnel, qui est à la fois structuré par les lois de l'enfance, les grands idéaux de l'adolescence, mais qui a la sagesse maintenant de l'inscrire dans la durée du réel. Alors ce schéma sera repris par nombre d'auteurs après Mohamed Abdou, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans bien sûr une intention apologétique qui vise à disqualifier l'actualité des révélations antérieures au Coran. Dans ce schéma, et le judaïsme et le christianisme n'ont évidemment plus de raison d'être puisque l'humanité est arrivée à l'âge adulte. Ce n'est évidemment pas à ce niveau que je reprends cette petite parabole de Mohamed Abdou, mais j'aime néanmoins scruter son interpellation. Ne dit-elle pas finalement quelque chose de juste? Le message chrétien n'est-il pas essentiellement une révélation qui dépasse la raison, qui sauve Dieu de la raison, de la même manière que les grands idéaux de l'adolescence, bien que ne résistant pas à l'épreuve du réel, disent quelque chose de juste et d'essentiel des plus profondes aspirations de l'humanité? Si nous regardons les grandes différences doctrinales de l'islam comme système et du christianisme comme système, cette analogie paraît pertinente. Si on prend la question de la révélation, l'islam se fonde sur le Coran, livre écrit de toute éternité auprès de Dieu est transmis au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Ce schéma de descente, de nuzul, tanzil, n'est-il pas plus raisonnable que celui de la révélation biblique qui déchiffre la révélation divine à travers les hauts et les bas de l'histoire d'un peuple et d'une communauté croyante? Quelle audace de la tradition judéo-chrétienne d'ainsi compromettre la parole de Dieu avec les lourdeurs de l'histoire humaine et en outre de déchiffrer au cœur de cette histoire le déploiement d'un projet divin. Le schéma coranique se présente au contraire mais comme la reprise de ce qui est donné dès l'origine et qui est à retrouver. Si on prend les affirmations coraniques relatives à Jésus, nous le savons, elles sont en opposition avec les axes fondamentaux de la foi chrétienne. Jésus, prophète envoyé par Dieu, n'a pu être tué car il est un vrai prophète. Et Dieu n'abandonne jamais ses prophètes lorsqu'ils sont en butte à l'hostilité du peuple auquel ils sont envoyés. Jésus n'est donc pas ressuscité, mais a été élevé auprès de Dieu qui le préservait ainsi de la mort que ses adversaires lui réservaient. Par ailleurs, il n'est pas fils de Dieu, il ne l'a jamais affirmé. Un vrai prophète ne peut porter atteinte au dogme essentiel de la vraie foi monothéiste, à savoir l'absolue unicité et transcendance de Dieu. La présentation coranique offre ainsi une admirable cohérence rationnelle de la figure de Jésus par rapport à toutes les affirmations de la foi chrétienne qui se présentent vraiment comme chaque fois des transgressions de ce que la raison peut penser. Ce rationalisme de l'islam se marque aussi dans le comportement du croyant. Le musulman est littéralement un soumis, au sens littéral du mot. Bon, bien sûr, il ne faut pas le prendre dans le sens où on le perçoit très vite comme occidental. Quand on pense à soumission, on pense d'abord soumission à une puissance extrinsèque. La soumission vécue par le musulman croyant est une soumission à ce qui est le plus intime, à savoir la loi divine, telle qu'elle est révélée comme loi positive dans le texte coranique, mais telle qu'elle est présente aussi au secret de la création et donc de toute vie humaine depuis la création. Mais il n'empêche que c'est la soumission à un ordre établi par Dieu et exprimé par de façon positive dans la révélation du Coran. Alors, quelle différence avec la conception du chrétien qui se vit comme disciple d'une personne du Christ ressuscité sous la motion de l'Esprit-Saint? Et bien souvent, dans la rencontre islamo-chrétienne, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir pour les amis musulmans. Ils ont l'impression que le christianisme, c'est pas sérieux. Quand les chrétiens ne peuvent pas dire précisément quelles sont les règles à respecter pour faire le carême, ça ne fait pas très sérieux. Tandis que les règles à respecter pour faire Ramadan, on les connaît, elles sont claires. Donc, on a, dans le comportement du croyant, il y a une approche très différente. Et les chrétiens ont d'ailleurs de la peine à se reconnaître dans l'appellation généreuse de gens du livre que leur apporte le Coran. Ce n'est pas la fidélité à un texte ou une loi qui définit les chrétiens, mais bien une fidélité créatrice dans l'Esprit Saint à Jésus-Christ. Et cela touche alors, bien sûr, à toute la question de la liberté et de l'autonomie humaine. Alors, ce petit inventaire rapide illustre, à mon sens, qu'au miroir de l'islam, l'identité chrétienne se décline effectivement comme une forme de transgression de la raison. Mohamed Abdou pointait là quelque chose de juste dans sa parabole des âges de la révélation. Et ce constat n'est pas anodin, je crois, pour ceux qui veulent avancer en vérité dans la rencontre des musulmans. N'y a-t-il pas là un appel à approfondir la vocation propre des chrétiens, non pas dans une progression des âges de la révélation, mais dans une perception d'une vocation propre au cœur même de tous les âges de la révélation et de l'humanité? Beaucoup de ceux qui ont rencontré des musulmans croyants en vérité il y en a certainement parmi nous, ont déjà pu, je pense, faire cette expérience, celle de rencontrer une personne qui vit une authentique expérience religieuse, avec un profond sens de Dieu, tout en étant étrangère et insensible à ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. Et c'est alors à ce lieu-là que surgit pour le chrétien la nécessité de penser le rapport à l'islam au cœur de sa foi. Et pour ma part, je trouve qu'il y a alors dans les écritures chrétiennes des assertions qui prennent du relief. Je pense au thème du sel de la terre, de la lumière du monde, du levain dans la pâte, ou encore ce thème paulinien que nul ne peut confesser Jésus Seigneur si ce n'est par l'Esprit. N'y a-t-il pas là l'indication d'une spécificité chrétienne dans l'histoire du salut? Confesser le salut offert à tous par Dieu en Jésus-Christ. Les chrétiens sont le signe, les témoins de la radicalité de l'amour de Dieu, sauveur de tous en Jésus-Christ. Le propre chrétien est de le confesser par l'Esprit. La vocation chrétienne au cœur du monde et dans les relations interreligieuses en particulier, n'est-elle pas alors ce témoignage rendu au caractère non raisonnable de Dieu? J'entends par là au caractère d'un Dieu qui dépasse la raison humaine et qui jamais ne s'y laisse enfermer. Ce caractère non raisonnable de Dieu renvoie à la folie de la croix pour qu'un salut soit possible. Car si Dieu était vraiment raisonnable en termes humains, y aurait-il une seule personne qui puisse être sauvée? La question de ce témoignage rendu à cette figure d'un Dieu qui dépasse la raison humaine est une question de salut. Le christianisme et transgression par rapport aux normes humaines, que ce soit dans sa foi, l'incarnation, la résurrection du Christ, le mystère trinitaire, mais aussi dans sa morale, le pardon des ennemis, tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche, mais c'est une transgression confessante. Alors certains spirituels musulmans ont parfois perçu cette nécessaire transgression de la raison humaine pour appréhender Dieu. Mais il ne trouve pas dans le Coran les mots pour la nommer, cette transgression. Tandis que le chrétien est appelé à la nommer et à l'articuler à travers sa vie. Et c'est à ce lieu-là que le chrétien exercera dans ses relations avec les musulmans une créativité à la fois vigilante et audacieuse qui suit cette recommandation de l'ancien évêque d'Alger, Mgr Tessier, qui avait une formule que je trouve très parlante, où il disait qu'avant même de chercher à évangéliser les musulmans, il faut tendre à rendre évangéliques nos relations aux musulmans. Donc, et cela, c'est en notre possible, cela dépend de nous, de rendre évangéliques nos relations. C'est bien la première question qui nous est posée, avant même celle de l'évangélisation éventuelle des musulmans. Rendre évangéliques les relations que nous avons avec eux. Dans un cours passé, j'avais eu l'occasion d'essayer de montrer qu'à mon sens, la foi au ressuscité se joue précisément dans la relation. Rendre évangéliques nos relations. Et c'est, à mon avis, l'enjeu pastoral majeur dans la rencontre des musulmans pour des chrétiens. Et c'est un enjeu qui nous renvoie au cœur de notre foi et donc aussi à un appel permanent à la conversion. Nous n'y serons jamais parfaitement. C'est ce que je voulais souligner comme enjeu sous ce thème de la fraternité. Vous voyez son enracinement qui prend à la fois en compte nos traditions respectives, mais qui essaie d'être fidèle à ce qui est le cœur de la foi chrétienne. Et dans un deuxième temps, je voudrais souligner ce qui me paraît l'enjeu principal du point de vue alors plus large, pas seulement pour les chrétiens, mais pour l'ensemble de l'humanité, de notre société, en parlant, bien sûr, vous allez le voir, d'un point de vue qui est principalement occidental, parce que je crois que les questions peuvent se poser dans des termes un peu différents pour les régions du monde très éloignées. Si je reprends notre petit parcours des différentes séances, je pense qu'il a permis de mettre en évidence que entre le monde musulman et le monde occidental, il y a des perceptions très différentes, voire opposées, de l'histoire et en particulier d'éléments d'histoire commune qui conduisent aujourd'hui à des incompréhensions qui sont potentiellement et parfois actuellement source de violence et de violence importante. J'ai relevé 4 points où on perçoit bien, me semble-t-il, les oppositions dans la perception de l'histoire. Il y a tout d'abord le regard sur le passé lointain. Le monde musulman a dans son ensemble une forte conscience de la grandeur politique, culturelle et économique de son histoire. Une conscience qui est perçue en contraste fort avec la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Le monde occidental a souvent la perception exactement inverse du monde musulman, le percevant comme le monde arriéré, obscurantiste, hein, pas plus tard que cette semaine-ci, un enseignant de la ville de Bruxelles s'est fait mettre à pied pour avoir publiquement dit, enfin sur un site ou sur Facebook, je ne sais plus, pour avoir publiquement affirmé que, interrogé, comment est-il possible de se rattacher à l'islam alors que c'est une religion qui compte le plus de gens analphabètes et arriérés. Donc, cette question-là est une question sensible. On se fait mettre à pied si on la soulève, mais il reflète sans doute une perception très commune, finalement, du monde musulman par le monde occidental. Donc, notre regard sur l'histoire longue est très largement différent. Et nous avons besoin de pouvoir renouer avec une histoire commune, relire l'histoire, nous raconter nos histoires. Deuxième point que je mentionne, c'est la question de la suppression du califat. Dans une perspective d'histoire occidentale, la suppression du califat est une nécessité qui était en particulier aux génocides arméniens, aux nombreux massacres d'il y a 100 ans qui ont frappé aussi d'autres communautés, les génocides araméens, chaldéens, etc., suite à la Première Guerre mondiale, redessiner les frontières du Proche et du Moyen-Orient était un élément important pour les puissances occidentales et était perçu comme une nécessité pour dégager des perspectives d'un avenir de paix pour le monde. Pour le monde musulman, la suppression de l'Empire ottoman a correspondu également à la suppression du califat, qui, même s'il n'était plus que nominal à la fin de l'Empire ottoman, restait la valeur symbolique, politique forte de l'unité du monde musulman. Et il n'est pas anodin si aujourd'hui l'État islamique, tant décrié, a précisément la prétention de créer un nouveau califat et en mettant en cause la frontière des États, en particulier la frontière entre l'Irak et la Syrie. Nous voyons comment ces perceptions différentes de l'histoire se jouent dans des conflits qui se déroulent sous nos yeux actuellement. Dans cette façon de redessiner la carte, nous voyons également que le peuple kurde reprend une place nettement plus importante, un peuple dont la destinée a aussi été niée assez fortement par l'imposition des frontières du XXe siècle. Les débats qui se posent dans le monde actuellement, nous l'avons vu, ont des rebondissements jusque dans les partis politiques belges, puisque la question du génocide arménien et de sa reconnaissance ou non fait qu'on est plus ou moins légitime, ou pas du tout, dans tel ou tel parti. Donc, alors que le génocide est l'œuvre de l'Empire ottoman, un empire qui n'existe plus, si la République turque est tellement sensible sur la question du génocide, c'est bien montré qu'elle se sent l'héritière de l'Empire ottoman et que l'identité turque, même si elle a pu s'affirmer à travers Mustafa Kemal Atatürk, à travers un nationalisme laïque, mais il reste dans un au moins inconscient collectif, mais qui est aussi assez largement conscient, la conscience qu'on est les héritiers de cet empire ottoman et qu'on a vocation à l'être. Et donc, si c'était reconnaître un génocide commis par un empire qui n'existe plus, cela ne pose évidemment pas de problème. Si on a tant de mal à le reconnaître, c'est qu'on perçoit bien le lien qui existe entre les deux. Donc la question de la suppression du califat, nous le voyons bien, est aussi un élément d'histoire très sensible qui rebondit jusque dans notre actualité la plus proche, que ce soit au niveau temporel ou même géographique. La question palestinienne est évidemment déterminante. Elle génère un sentiment d'injustice à l'égard des populations palestiniennes et elle génère aussi pour le monde musulman la perception d'un ordre international à géométrie variable en matière de respect des droits des peuples. Les décisions de l'ONU sont plus ou moins contraignantes, suivant qu'elles visent tel ou tel peuple. Donc, cette question palestinienne est très certainement, tant pour le monde musulman que pour le monde occidental, un lieu où elle est perçue de façon radicalement différente. Du point de vue occidental, c'est la mémoire de la Shoah qui rend d'une certaine façon légitime, est-ce qu'on légitime par l'horreur, je ne sais pas, donc l'existence d'Israël, tandis que du point de vue musulman, c'est les populations déplacées et chassées de Palestine pour créer l'État d'Israël qui le rend illégitime. Donc il y a aussi un point évidemment essentiel à pouvoir se parler là, et qui, au niveau religieux, vous voyez, met en cause les trois composantes. On ne peut pas parler simplement entre chrétiens et musulmans, ou entre chrétiens et juifs, ou entre juifs et musulmans. Il y a nécessairement un trialogue qui est nécessaire. Et puis alors, je voudrais, comme quatrième point sensible dans la perception différente de l'histoire et de la société, pointer un élément qui est quelque peu d'un autre ordre, mais qui est d'une certaine façon symbolique dans le sens qu'il regroupe beaucoup de facteurs, c'est la question du statut de la femme. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, pour montrer aussi l'actualité. Donc, vous aurez peut-être entendu que le nouveau parti de M. Sarkozy, qui, si je ne me trompe, s'appelle les Républicains, avaient une journée d'études aujourd'hui sur l'islam et où ils se sont parfaitement divisés en n'abordant qu'une seule question, la question du voile et du statut de la femme. Donc, quand un grand parti essaie d'aborder la question de l'islam, ils peuvent se retrouver enfermés dans une question particulière. Et ce qui montre bien est que c'est une question qui touche à beaucoup de points fondamentaux. Alors, les points de débat et de conflit possibles qui sont touchés par la question du statut de la femme me paraissent de différents ordres. Il y a tout d'abord la question de l'égalité. Est-ce que tous les citoyens sont égaux ou non? La représentation traditionnelle de l'islam est une représentation inégalitaire qui organise la société de façon inégalitaire dans le rapport homme-femme, mais dans le rapport aussi musulman-non-musulman. Donc la question de l'égalité est une question qui est devenue très sensible et qui est vécue comme un idéal en Occident, pour lequel nous devons bien reconnaître que c'est un idéal en chemin. Aujourd'hui encore, paraissaient les statistiques du salaire horaire en Belgique entre hommes et femmes, les femmes, à travail égal, gagnent alors 9% de moins qu'un homme. La question de l'égalité est à la fois un combat en Occident, mais présenté comme un idéal. Et donc évidemment un système qui se présente en ayant un modèle organisé inégalitaire et conflictuel. Mais il faut bien percevoir aussi la question dans notre propre culture et sa dimension d'historicité. Il n'y a pas si longtemps que les femmes ont le droit de vote en Belgique. La question de l'égalité est un premier niveau. La question, le statut de la femme touche aussi à la question de l'autonomie et de la liberté. Est-ce que l'individu s'autodétermine lui-même ou est-il déterminé par son environnement social? Il est clair que la culture contemporaine occidentale, à la différence du christianisme sans doute, survalorise l'autonomie de l'individu. Dans une perspective chrétienne, la personne est d'abord un être de relation, en relation, avant d'être un individu autonome. Donc au niveau anthropologique, on voit là un enjeu où le débat touche aussi une dimension religieuse importante. Évidemment, l'autonomie et la liberté sont pensables dans un modèle relationnel, mais souvent, dans l'Occident contemporain, ce n'est pas dans ce modèle-là que la question est posée, mais bien dans un modèle très individualiste. La troisième question qui est touchée par la question du statut de la femme, c'est la question de la violence. Toutes les relations humaines sont marquées par le risque de la violence et tous les grands systèmes sociaux, philosophiques ou religieux essaient de trouver des moyens pour soit canaliser cette violence, soit en sortir. La différence entre le modèle occidental hérité du christianisme et le modèle musulman est forte également à ce niveau-là, puisque l'islam régule la violence en légitimant l'usage dans le cadre d'un ordre établi, y compris dans le rapport homme-femme. C'est une violence qui n'est pas arbitraire, mais une violence régulée dans le cadre d'un ordre établi, tandis que la tradition judéo-chrétienne a l'ambition de proposer une voie de sortie de la violence. Tendre l'autre joue si on vous frappe sur une joue, c'est un schéma de sortie de la violence, donner sa vie comme le Christ l'a fait, c'est un schéma de sortie de la violence. Mais évidemment, comme tous, nous ne sommes pas encore saints, la violence continue à exister entre nous et nous avons sans doute plus de difficultés à avoir une parole sur la violence régulée, puisque nous la percevons comme illégitime au départ. L'islam ne se présente pas comme un système de sortie de la violence, mais comme un système de régulation de la violence. Donc, nous voyons bien que la question du statut de la femme est à la fois une question qui touche de façon déterminante et première les femmes, bien sûr, mais qui met en jeu aussi un des oppositions importantes entre deux modèles de société et deux systèmes de représentation. Et donc les débats qui touchent au statut de la femme dans le monde musulman ne sont pas simplement des débats de type féministe, mais réellement des débats sociétaux, comme je crois d'ailleurs cela l'est encore aujourd'hui en Occident, qui touche à toutes nos grandes représentations, à la fois sociales et anthropologiques. Reconnaître cette dimension historique et de débat au sein à la fois de des cultures occidentales, mais aussi entre les cultures et les traditions, me paraît un élément important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai placé sous le titre de l'enjeu d'une histoire partagée, mais ces quatre éléments qui vont du passé le plus lointain au plus international, mais qui touchent aussi au plus quotidien des relations sociales jusque dans nos pays. Alors si nous prenons ces quatre points focaux, rapport à un riche passé, suppression du califat, question palestinienne et statut de la femme, ce sont bien sûr des questions qui, d'une façon ou d'une autre, se posent dans l'entièreté du monde. Mais je pense qu'elles se posent de façon spécifique pour la zone géographique dans laquelle nous vivons, et que je ne vais pas appeler l'Europe, mais élargir quand même un petit peu nos horizons pour parler du bassin méditerranéen. Est-ce que la grosse question pour les Occidentaux n'est pas aujourd'hui de savoir si la Méditerranée est la Mare Nostrum des anciens, un bassin commun autour duquel nous sommes réunis, ou au contraire une frontière qui limite des mondes différents et qu'il faut protéger. Cela renvoie au défi d'une relecture commune de l'histoire, une relecture qui englobe celle des origines de l'islam, comme nous l'avons vu au début du parcours, et en particulier les rapports entre sunnites et chiites. Il apparaît de plus en plus clairement maintenant que tous les conflits et toutes les guerres qui se développent en Irak, en Syrie en particulier, sont un conflit entre sunnites et chiites. Les rapports de force qui sont en train de s'établir maintenant sont de cet ordre-là. Donc relire l'histoire jusque et y compris les origines de l'islam et dans son rapport entre sunnites et chiites me paraît important. Nous vivons tous, chrétiens et musulmans, avec des représentations de l'histoire marquées par une construction en opposition. Et pourtant, si nous regardons, comme chrétiens alors, comment s'est constitué le christianisme, nous devons bien constater qu'il s'est constitué en utilisant la Méditerranée comme un espace commun. Les voyages de Paul en attestent suffisamment dans le cadre de l'Empire romain. Et nous voyons que l'islam naît au moment où précisément l'unité de cet empire romain est mise à mal. Donc c'est question de revisiter l'histoire et de se dire où se joue notre identité me paraissent vraiment essentielles, l'enjeu principal au terme de ce parcours, hein, pour pouvoir avancer vers un avenir meilleur pour tous. Hein, c'est retrouver ces enjeux d'une histoire partagée et qui n'est pas nécessairement une histoire en opposition, mais qui est, dans beaucoup de ces éléments, une histoire partagée aussi. Alors je vous remercie pour votre patience et votre facilité. En tout cas.